Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, dans Asialogie, on reprend l'histoire du Vietnam, là où on l'a laissé. On va parler d'Ho Chi Minh, le père de la nation vietnamienne, et de la guerre dite des 10 000 jours, la guerre contre les Américains.
D'accord.
Guerre qui s'est terminée un 30 avril, il y a 50 ans.
Eh oui.
Eh oui. Et puis, en deuxième partie de ce 34e épisode d'Asialogie, Didier, tu vas nous parler de l'exposition d'un grand photographe qui a beaucoup photographié le Vietnam. Mm-hmm. À cette période, c'est Marc Riboud.
Voilà, un grand homme.
Alors, un grand homme.
Coup, avant de parler de Marc Riboud qui a écumé le Vietnam, on va aller, suite à notre dernière émission, nous avons déjà évoqué la colonisation française et puis le rôle qu'avait joué Ho Chi Minh.
Oui, un peu.
Mais là, du coup, il est temps d'en savoir davantage sur cet homme.
Oui, alors Ho Chi Minh, ça veut dire celui qui éclaire. Son vrai nom, c'était Nguyen Thach Tan.
Ouais.
Et il est né en 1890 dans la province de Nghe An, au centre du Vietnam.
D'accord.
Et il est mort en 1969, c'est pas vieux, hein,
pas tant.
À 79 ans, à Hanoï. Alors il était fils d'un lettré confucéen, opposé à la colonisation française, et par cela, déchu de ses droits.
D'accord.
Et Ho Chi Minh sera le témoin de toutes ces injustices, celles vécues par son père, mm-hmm. et aussi les injustices vécues par tous les autres Vietnamiens de son entourage. Et en 1911, il va quitter le Vietnam pour travailler comme cuisinier et marin sur un navire français.
D'accord.
Puis il va voyager à travers l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Alors, il va arriver en France en 1917, Ho Chi Minh, et il vivra à Paris pendant plusieurs années dans des conditions de vie précaires. Il a même été photographe.
Ah, bien.
Et il va s'instruire de manière autodidacte en fréquentant des cercles socialistes et communistes, en lisant beaucoup et en écrivant des articles politiques. Il n'a pas fait d'études en France, c'est un autodidacte, Ho Chi Minh.
Hein. Oui, très bien.
Et son engagement au sein du Parti Socialiste Français, puis du Parti Communiste, lui permettront d'acquérir une solide formation idéologique et politique, donc en France.
Oui. Voilà.
La France est quand même à l'origine de ce grand homme.
Oui.
Et Ho Chi Minh va pouvoir ainsi militer pour l'indépendance de son pays.
Bien sûr.
Alors, il va écrire le célèbre manifeste « Revendication du peuple annamite » qu'il va adresser en 1919 à la conférence de Versailles. Et la conférence de Versailles, c'était la réunion des gouvernements alliés qui s'était tenue après la Première Guerre mondiale pour établir les conditions de paix entre les vainqueurs et les vaincus, et de redessiner la carte du monde.
Oui, mais alors, que disait Ho Chi Minh dans ce manifeste, Corinne, alors ? Et deuxième question, je fais d'une pierre deux coups, pourquoi il l'a envoyé à la conférence de Versailles, quoi ?
Oui, ce sont de bonnes questions, Didier. Oui, alors, Ho Chi Minh s'était inspiré du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mis en avant à la conférence de Versailles dans son manifeste à cette réunion. L'origine de la réunion, c'était effectivement de redessiner la carte du monde et en appliquant le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc,
d'accord.
Ho Chi Minh voulait finalement profiter de cette opportunité-là.
Oui, bien sûr.
C'est une occasion pour lui, pour Ho Chi Minh, d'exiger des réformes pour les Vietnamiens aussi.
Oui.
Alors, dans ce manifeste, il y avait 8 demandes principales et légitimes qui nous font deviner les conditions de vie des Vietnamiens.
D'accord, je veux en savoir plus.
Voilà, alors Ho Chi Minh, il revendiquait l'égalité des droits entre Vietnamiens et Français dans la colonie. Il revendiquait la liberté de la presse et d'expression pour les Vietnamiens, la liberté d'association et de réunion pour les Vietnamiens toujours, le droit à l'éducation qu'ils n'avaient pas. L'abolition des corvées et des traitements injustes infligés aux travailleurs vietnamiens. Il revendiquait le remplacement des tribunaux coloniaux répressifs par des juridictions indépendantes.
Eh oui.
Il voulait la reconnaissance du droit des Vietnamiens à participer aux décisions politiques et il voulait une politique plus juste sur l'impôt et les travaux publics pour éviter l'exploitation économique du pays.
Oui, je comprends bien qu'il ait envie de tout ça pour son pays. Mais alors du coup, voilà, c'est son souhait. Et quelle réponse il va recevoir au Chi Minh du gouvernement français? Ça a eu quel impact, en fait, son manifeste?
Alors, ce manifeste montre que Ho Chi Minh, à cette époque, ne réclamait pas encore une indépendance totale.
Oui, c'est vrai. Hein,
mais une égalité des droits et des réformes démocratiques. C'est seulement après l'échec de ses revendications qu'il va s'engager dans une lutte révolutionnaire.
Oui, il va
parce
qu'en dire,
fait,
quoi.
Ben voilà, parce que le gouvernement français a ignoré le manifeste de Ho Chi Minh. Il a ignoré complètement les revendications et le gouvernement français ne va rien changer aux conditions de vie des Vietnamiens.
Bien sûr.
Voilà, et donc c'est ça qui va convaincre Ho Chi Minh en 1920 à rejoindre le Parti communiste pour commencer à organiser la lutte anticolonialiste. Mmh. Et c'est ainsi qu'Ho Chi Minh entrera sur la scène politique internationale par son engagement pour l'indépendance du Vietnam.
D'accord.
Alors, il cofondera le Parti communiste français, et ça, on l'ignore,
ah
je
oui.
pense, en 1921. Alors, il ne fait pas partie
des
trois principaux, mais il était là. Le Parti communiste français, qui a été fondé par Marcel Cachin, Boris Souvarine et Ludovic Oscar Frossard.
Okay.
Il a fait partie de ce groupe-là. Il poursuivra ensuite sa formation révolutionnaire à Moscou, en 1923, puis en Chine, bien sûr. Et c'est avec l'aide de Mao qu'il fondera en 1930 le Parti communiste indochinois visant à libérer le Vietnam de la colonisation française.
Ouais.
C'était quand même quelqu'un de motivé.
Ah, j'imagine bien. Ouais.
Et de
formé. Il s'est formé beaucoup, il a passé du temps à tout ça, mais du coup, il va rentrer quand au Vietnam et qu'est-ce qu'il va y faire alors?
Alors, il va rentrer en 1941 pour créer donc 20 ans après,
oui,
en fait.
C'est long, quand même.
Oui, pour créer dans la clandestinité le Viet Minh, un mouvement de résistance contre les Japonais et les Français. Parce qu'en 1941, les Japonais étaient en Asie. Enfin, en Asie, ils y étaient déjà.
Dans
l'Asie
la
continentale.
Mondiale,
exactement. Voilà. Puis, il y a eu de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du Japon. Et le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh va proclamer l'indépendance du Vietnam en tant que premier président, mais comme on peut s'en douter, la France refusera de le reconnaître. Il avait aussi voulu saisir cette opportunité de la libération du Vietnam par le Japon. Enfin, la libération du Vietnam des Japonais.
Bien sûr.
Voilà, donc la France va refuser et c'est ce qui va déclencher la guerre d'Indochine de 1946 à 1954. Et c'est en 1950 que les Américains vont entrer en scène en aidant financièrement la France pour contenir la progression du communisme en Asie du Sud-Est.
Bien sûr.
Alors cette guerre, la France va la perdre, car incapable de faire face à une guérilla très efficace menée avec le soutien de la Chine et l'URSS,
ils seront pas les seuls, mais oui.
Ils seront pas les seuls. Alors c'est la bataille décisive de Dien Bien Phu en mai 1954, qui marquera la défaite française. Et l'armée française était mal préparée. Elle connaissait pas le terrain et surtout elle sous-estimait complètement les soldats Viet Minh.
Oui, on arrivait avec nos gros sabots croyant tout pouvoir faire et puis finalement la résistance locale était
plus forte et surtout qu'ils avaient tout à gagner.
C'est ça.
Alors cette défaite a conduit aux accords de Genève et à la fin de la présence française en Indochine. Alors moi je propose qu'on écoute une chanson de l'époque et c'est la balade d'Ho Chi Minh. Et c'est en vietnamien bien sûr.
Biển xa, người đi khắp phương trời. Ở nơi xa đó, người dân đói nghèo. Từ đau thương người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi. soi chiếu sáng dân mình. Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh. Vượt chung sông, người đi khắp phương trời, liền tôi ý chí, lòng núi căm hờn. Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, dọi chiếu sáng dân mình. Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh, Hồ Hồ.
Bon voilà Corinne, je pense que tous les auditeurs et les auditrices ont bien compris qu'on parlait de Chimine là. À mon avis, la chanson a été assez claire là-dessus.
Oui, mais bon.
Oui, non mais on était couleur locale, là il n'y a pas de doute.
On était dans le thème.
Voilà, exactement. Alors du coup, on en était resté aux accords de Genève.
Oui.
Le Vietnam, il est devenu enfin indépendant là ?
Bah, c'était pas si simple,
non.
Didier, hein, parce que après la victoire du Viet Minh en 1955, mm-hmm. les accords de Genève divisent le Vietnam en deux. Encore une histoire de partage de territoire.
Bien sûr.
Au nord, la République démocratique du Vietnam, donc communiste,
oui.
est dirigée par Ho Chi Minh. Et au sud, la République du Vietnam, soutenue par les États-Unis, est gouvernée par Ngo Dinh Diem, qui deviendra très vite un dictateur.
Ah,
alors oui, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Corée. Hein.
D'accord.
Hein, au nord, les communistes, au sud, les Américains.
Exactement.
Voilà, alors pendant ce temps-là, Ho Chi Minh, devenu un grand leader, va mener une lutte pour réunifier le pays mm-hmm. et va soutenir la révolte du sud, le Viet Cong,
okay, oui,
contre les États-Unis.
Mm-hmm.
Alors oui, hein, donc je vous l'ai dit déjà, les Américains étaient présents depuis les années 50, mais leur présence militaire massive va débuter réellement en 1965.
Ouais.
Donc c'est vraiment pas vieux, moi je trouve quand même, assez, avec l'envoi des troupes combattantes,
mm-hmm.
et le tout s'inscrivant dans le contexte de la guerre froide, opposant les États-Unis au bloc communiste dirigé par l'URSS et la Chine.
Mmh.
Donc les Américains, ils n'ont pas lésiné, ils ont envoyé en tout 550 000 hommes.
Ah oui, tout de même, effectivement.
C'est beaucoup,
alors,
pour un petit pays
550
quand même.
000 hommes.
Pour la moitié d'un petit,
oui,
petit pays.
C'est ça, 550 000 hommes, on sent bien qu'il va se passer quelque chose. Quoi. Comment la guerre s'est déclenchée ? C'est quoi l'élément déclencheur, Corinne ?
Alors, d'abord, il y a eu en 1963 l'assassinat de Ngo Dinh Diem, donc le dictateur, là, lors d'un coup d'État, du coup, là, par une junte qui a pris le pouvoir. On montait un peu dans l'horreur.
Mm-hmm.
Et puis, il y a eu en 1964 l'incident du golfe du Tonkin.
Ouais.
C'était une soi-disant attaque contre des navires américains. Ça aussi, ça sert souvent de,
c'est souvent
de
facile,
prétexte. Un truc bidon.
Oui.
Et du coup, les États-Unis vont intervenir directement en 1965.
D'accord.
Et ce sera la date officielle, voilà, du début de la guerre, avec des bombardements massifs sur le Nord-Vietnam.
D'accord.
Alors, ça s'appelait l'opération Rolling Thunder.
Mm-hmm.
Et les États-Unis justifiaient leur intervention pour protéger le Sud-Vietnam contre l'agression communiste.
Ouais, bien sûr.
Mais la guerre s'est enlisée
jusqu'à
ce qu'on appelle l'offensive du Tet. Hein, c'est le nouvel an asiatique en vietnamien.
Ouais.
Donc le nouvel an vietnamien. En janvier 1968, peu de temps avant la mort de Ho Chi Minh.
D'accord.
Et cette offensive du Tet.
Ok, mais alors, cette offensive du Tet, moi je ne connais pas. C'est quoi, Corinne ?
C'était l'attaque surprise du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne sur une centaine de fronts. Dont Saïgon.
Ouais.
Donc, centaines de fronts, c'est beaucoup. Hein, ils avaient coordonné toute
cette offensive
contre les Américains et les soldats sud-vietnamiens.
Mm-hmm.
Parce qu'il y avait aussi des Vietnamiens qui étaient alliés aux Américains. Alors, il y a eu des pertes très lourdes des deux côtés, des milliers de morts et de blessés, dont de nombreux civils. Mais malgré leurs pertes très élevées, les forces communistes avaient gagné la guerre psychologique et politique. Et cela va choquer profondément l'opinion publique aux États-Unis. Il y aura beaucoup de manifestations pour la paix.
Mm-hmm.
Ce qui forcera le gouvernement américain de Richard Nixon à se retirer progressivement du Vietnam en mars 1973, selon les accords de Paris. Alors oui, on se souvient, c'était faites l'amour, pas la guerre, c'était les mouvements pacifistes.
On va en reparler tout à l'heure, ça d'ailleurs.
D'accord. On en reparle tout à l'heure.
Alors, moi, ce que je voudrais que tu me dises, c'est qu'est-ce que c'est que ces accords de Paris ?
C'est le traité de paix qui a été signé à Paris le 27 janvier 1973. 1973, oui, entre quatre parties impliquées dans la guerre. Donc on se souvient, Henry Kissinger,
oui,
hein, le conseiller à la sécurité nationale, représentant des États-Unis.
Oui.
Mais on se souvient un petit peu moins des autres. Il y avait Leducto, le négociateur en chef représentant du Vietnam du Nord.
Ah,
Nguyen Van Thieu, président du Vietnam du Sud, représenté, ouais, par son ministre des Affaires étrangères. Et Nguyen Thi Binh, le, mm-hmm, ministre des Affaires étrangères du gouvernement révolutionnaire provisoire du Viet Cong, l'allié du Nord.
D'accord.
Voilà.
Okay,
et
bon,
ces accords de Paris de 1973 marquent la fin officielle de la guerre avec un cessez-le-feu, le, mmh, retrait des troupes américaines, ainsi que la libération des prisonniers de guerre, avec la reconnaissance de la souveraineté du Vietnam.
Mmh.
Important, mmh, ces accords de Paris.
Donc ça aura duré 8 ans, alors, cette guerre.
Voilà. Okay. Alors, ce traité prévoyait aussi des élections pour une réunification pacifique, ce qui, mmh, n'a pas eu lieu.
Ouais.
Les combats reprendront rapidement entre les forces du Sud et,
d'accord,
du Nord. Et en avril 1975, les forces communistes prennent Saïgon, ce qui mettra fin à la guerre et unifiera le Vietnam,
mais
sous un régime
communiste.
D'accord. Les Coréens du Nord avaient tenté de faire la même chose.
Hein. Oui.
Puis en 1976, la République socialiste du Vietnam est proclamée avec Tôn Đức Thắng, le vieux compagnon de route d'Ho Chi Minh, comme président. Il était déjà mort, Ho Chi Minh, en 1969.
Okay.
Hein,
oui.
Donc il n'a pas connu son pays réunifié.
Ah, oui.
Alors suivra en 1978 un autre terrible conflit, hein, celui avec le Cambodge et la Chine,
mm-hmm.
Et ce sera le sujet d'une autre émission.
Et oui, il faut en garder.
Il faut en garder, voilà.
Bien
et
sûr.
C'était il y a 50 ans aussi, hein, les Khmer Rouges.
D'accord. Oui.
Alors pour conclure, hein, depuis les années 2000, le Vietnam vit une croissance économique rapide,
mm-hmm,
et une grande modernisation. C'est un,
ouais,
pays dynamique qui combine ses traditions et la modernité. C'est un très, 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 très beau pays.
Oui.
Alors quelques mots sur l'héritage, hein, d'Ho Chi Minh, qui est considéré comme le père de l'indépendance vietnamienne. Son nom a été immortalisé puisque ça, Saïgon est devenu,
voilà,
Ho Chi Minh City en 1976 et son mausolée à Hanoï est un haut lieu de pèlerinage pour tous les Vietnamiens.
Très bien.
Alors,
oui,
moi je propose une pause musicale, Didier.
Tout à fait.
C'est en vietnamien, c'est un peu rock et c'est bien sûr le Vietnam du Sud en 1966. On y entendait ça.
Voilà.
C'était Phuong Tham.
D'accord.
Chanteuse vietnamienne du Sud.
C'est très
1966. Bah oui, influence américaine importante,
clairement.
C'est sûr.
Okay.
Bon Didier,
oui,
maintenant tu vas nous parler de l'exposition de Marc Riboud.
Tout à fait.
Ce photographe qui nous a transmis des images inoubliables, je dirais, de la guerre, mais non de pendant la guerre du Vietnam.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça.
Ouais, on peut dire ça comme ça, tu as raison. Oui, parce que en fait, c'est à l'occasion des 50 ans de la fin de la guerre du Vietnam que l'association Les Amis de Marc Riboud et le musée Guimet, qu'on a déjà
le
parlé
musée
ici,
Guimet,
évoqué,
ben oui, bien sûr,
se sont associés pour présenter les photographies et documents d'archives de Marc Riboud sur la guerre du Vietnam entre 1966 et 1976. Petite précision, Marc Riboud a fait don de son œuvre au musée Guimet, qui donc en assure la conservation.
Il l'a bien fait.
Oui, je pense. Marc Riboud est né donc en 1923 dans un village près de Lyon et il est mort en 2016 à Paris à 93 ans. Alors, c'était un photographe français de renommée mondiale, célèbre pour ses reportages humanistes et son regard poétique sur le monde. Il a étudié donc d'abord l'ingénierie à l'École centrale de Lyon, mais il se passionnait pour la photographie depuis son adolescence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engagera dans la résistance contre l'occupation nazie.
Oui, c'était quelqu'un de bien.
Voilà, il a pris l'appareil photo de son papa.
Je porte un jugement, mais...
Et il a commencé la photo très jeune, en fait. J'ai vu sur les vieux Kodak.
Ouais, puis il est mort âgé quand même, 93 ans.
C'est ça, en 2016.
Alors, quand est-ce qu'il a commencé vraiment sa carrière, Didier? Il a commencé... Toi, tu me disais là tout de suite.
Oui, il a bricolé avec un appareil photo. J'en connais d'autres qui ont fait ça, très jeunes, qu'il avait dans les mains. Et puis, il faisait toujours de la photo. Mais en 1953, c'est là qu'il va faire l'un de ses clichés les plus célèbres, le peintre de la Tour Eiffel. Ça, je pense que tout le monde le connaît. Ce monsieur perché, là, avec son pinceau un peu foufou dans la Tour Eiffel, en train de la peindre. Cliché qui montre donc l'ouvrier en équilibre sur un échafaudage, pinceau à la main. Cette photo sera publiée dans le magazine américain Life.
Oui, rien ça, que ça.
Ça claque quand même.
Oui, ça claque.
Et lancera sa carrière. Puis, il rejoindra l'agence Magnum. Là aussi, ça fait rêver quelqu'un comme moi. En 1953, recommandé par deux photographes qui me font rêver aussi. Là, c'est pur. Henri Cartier-Bresson et Robert Capa. Enfin bon, là, dans le monde du photoreportage, on ne fait pas beaucoup mieux.
Ils
vont beaucoup l'influencer, forcément.
Alors, il est parti à cette époque-là, au Vietnam? Quand est-ce qu'il est parti au Vietnam?
Pas tout de suite. Mais il avait un grand intérêt pour l'Orient et la découverte de nouvelles cultures. C'était un grand curieux, quoi.
Oui.
Il ira d'abord en Inde, au Japon, en Chine. À l'époque, peu de photographes occidentaux, en fait, s'y aventuraient.
Il voulait porter
son regard sur ces régions en pleine transformation après la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation. Et comme Cartier-Bresson avant lui, il était fasciné par la Chine maoïste qu'il va découvrir dès 1957, puis... il ira au Vietnam et capturera des images marquantes du quotidien.
Alors, est-ce qu'il avait une approche particulière dans son travail, Marc Riboud?
Tout à fait, cet humaniste, oui. Mais il s'était en fait inspiré par d'autres photographes. Il avait un style personnel qui privilégiait, comme Cartier-Bresson. Alors, je pense que ça peut peut-être parler à certains, à la fois de la composition soignée, puis c'est l'instant. C'est la photo de l'instant. On peut le considérer comme un reporter engagé, en plus. En effet, il photographiait des sociétés en transition et des conflits, mais en fait, pas directement. C'était un regard poétique, empathique sur le monde qui l'entourait.
Oui, ça, c'était assez original, quand même.
Oui, c'était un photographe humaniste qui cherchait à capturer la vie quotidienne et les émotions plutôt que les événements sensationnels. Il s'intéressait davantage aux conséquences humaines du conflit qu'à l'action et à la violence directe qu'on pourrait voir maintenant, là. On nous a donné une vision plus nuancée que celle de la presse en fait américaine. Il avait un
autre
regard. Il ne montrait
pas la guerre en direct.
Non, c'est ça, c'est un autre regard.
Alors, il est allé plusieurs fois au Vietnam, je suppose.
Oui, oui, oui. Il était profondément touché par le drame vietnamien, en fait. Il va s'y rendre une dizaine de fois entre 1966 et 1976, allant dans les villes bombardées, comme à Hanoï, Saïgon, mais aussi sur les routes, dans les rizières, comme dans les usines, dans les camps de réfugiés et de rééducation. Il va réaliser de longs reportages mettant en évidence le courage d'un peuple qui se bat avec des moyens misérables contre la plus grande puissance du monde, tout de même.
Ils sont très forts, ces Vietnamiens.
Ah oui, bien sûr. Et dans ces reportages, que va transparaître en fait la méthode de Marc Riboud qui ne se voyait pas comme un photographe de guerre, comme on l'a déjà dit. Mmh. Il voulait montrer la vie qui continuait dans les ruines, montrer les civils qui tentaient de se reposer dans les refuges de fortune, les amoureux, montrer la vivacité des enfants, la vie bouleversée, blessée, mais une vie qui continue, tenace, envers et contre tout.
Ouais, ça symbolise bien les Vietnamiens.
Je trouve aussi, oui.
Alors, que peut-on voir à cette exposition du très très beau musée Guimet?
C'est ça, oui. Alors, on vous invite à aller la voir. On peut y voir une très grande partie du travail de Marc Riboud dans ses années au Vietnam. C'est une exposition bouleversante, un témoignage sur l'histoire de la guerre au travers de ses visages, les visages des survivants, Dans ces photos, les soldats sont rares. Ils sont remplacés par les instants de vie fragile pour nous rappeler que même dans le chaos, la vie continue. On peut y voir une photo iconique de la jeune fille à la fleur. Celle-là, tout le monde la connaît.
Oui, bah, tu vas nous la décrire, Didier.
Exactement, c'est pour ça que je te disais tout à
l'heure. Elle vient.
Voilà, doucement.
On la connaît, tout le monde la connaît.
Je suis sûr, quand je vais vous la décrire,
ouais,
vous allez...
Décris-la.
Voilà. Alors, on est en octobre 1967, à Washington. Marc Riboud se trouvait dans une manifestation. Il a photographié une jeune américaine avec une fleur à la main face aux baïonnettes des soldats devant le Pentagone. Une fille, c'est cette fille à la fleur. Elle est devenue un symbole universel de la paix et de l'espoir. Vous voyez une jeune demoiselle, les cheveux courts, avec une robe à fleurs. Enfin, vraiment très iconique. Et bon, en fait, c'est une vision de la guerre, de la peur, qui n'avait aucune idée de la souffrance des Vietnamiens, en fait, à l'époque, les Américains.
Oui. Alors, quand est-ce que les Américains vont prendre conscience de la guerre, en fait parce qu'ils n'avaient que leur propre vision.
C'est ça. Et ils en auront enfin conscience en 1970, avec justement quand Marc Riboud éditera Face of North Vietnam, un reportage qui montre pour la première fois aux Américains le visage de ceux qu'ils combattaient. Ce livre va révéler un Vietnam où les visages, les gestes et les sourires vont dépasser la propagande. Pour avoir une idée précise de son œuvre, il y a le livre donc Marc Riboud, 50 ans de photographie, qui a été édité en 2004, que l'on peut trouver facilement d'occasion pour une vingtaine d'euros. Puis bah, neuf, c'est un peu plus cher, à 26,50, mais il y a moyen de se procurer.
Oui, on peut le trouver d'occasion, mais bientôt, voilà, je pense que ça va créer un engouement un petit
peu.
Hein.
J'espère. Bon, alors, c'est au musée Guimet, ça on l'a déjà dit, c'est du 5 mars au 12 mai. Donc c'est...
il faut y aller maintenant.
Un tout petit peu de temps pour aller. Si vous passez à Paris, n'hésitez pas, place de Iéna. C'est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h, tarif 13 euros, tarif réduit 8 euros, et c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Là, je peux pas vous faire plus la retape pour y aller.
Mais il faut y aller avant le 12 mai.
C'est ça.
Bon, Didier, les amis, c'est fini, Asialogie. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30, et bien sûr, en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa. Salut, très bonne semaine.
Merci. Et puis si vous allez au musée Guimet, vous avez le droit de nous envoyer des infos sur Facebook.
Oui, bien
sûr.
On sera
heureux.
On aimerait bien avoir des petits messages.
Ouais. Merci, à bientôt.